Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Hola, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, comme chaque semaine, comme chaque dimanche, et j'espère que tous les derniers épisodes que j'ai postés vous ont fait du bien, vous ont apporté quelque chose. Aujourd'hui, c'est déjà le 8e épisode, et pour ce 8e épisode, j'avais envie d'aborder ma relation toxique au travail. Je pense que ça va être un épisode qui va parler à toutes les personnes qui sont accro au travail comme moi, qui prennent beaucoup leur travail à cœur, et pour qui leur travail, c'est vraiment toute leur vie. Et dit comme ça, ça peut paraître négatif, mais avec cet épisode, je voulais me demander si justement, est-ce que ça l'était vraiment négatif, ou est-ce que ça pouvait pas aussi être positif d'autant aimer son travail et de se donner à fond? Et comment trouver un équilibre entre j'adore mon travail et je me donne à fond, et je fais la part des choses et mon travail doit pas être toute ma vie entière? Parce qu'en vrai, personnellement, j'ai aucun problème à travailler toute une nuit pour produire un travail de qualité dont je vais être fière après. J'adore et pour moi c'est obligatoire, j'arrive pas à ne pas faire les choses bien jusqu'au bout, à ne pas me donner à fond, je sais pas faire les choses à moitié et c'est quelque chose qui m'énerve si je fais les choses à moitié. Donc je fais toujours en sorte de tout bien faire jusqu'au bout, mais avec du recul je me dis à quel prix. Parce qu'avec tout ça, bah en fait j'ai passé des années à me focus sur mon travail, que ce soit pour les cours, pour mes stages, pour ma chaîne YouTube, et à penser que travail, à travailler tout le temps. Jusqu'à en perdre la notion de plaisir, jusqu'à ne pas avoir l'intérêt d'aller prendre un verre avec des potes le soir, jusqu'à ne pas avoir l'intérêt d'arrêter de travailler en vacances, jusqu'à ne pas avoir l'intérêt de prendre du temps pour juste ne rien faire, parce que rien faire, ça m'angoisse totalement, si je dois être honnête avec vous. Et j'espère que je suis pas la seule et qu'au bout de 30 secondes d'épisode, vous êtes en train de vous dire « Mais qui est cette folle que je suis en train d'écouter ?» Et en fait, cette envie de travailler dur pour obtenir ce que je voulais, elle vient du fait qu'un jour, je me suis dit que j'avais pas envie de me réveiller dans 20 ans et de dire à mes enfants que j'ai pas pu réaliser mes rêves ou tout ce que j'avais envie de faire, tous mes objectifs, parce que j'avais eu la flemme. Et chaque fois que je me suis répété cette phrase, ça m'a surmotivée à me donner à fond dans tous mes projets, mais j'en suis arrivée à une productivité qui est toxique, où j'en deviens tellement productive que je prends plus de plaisir dans autre chose d'autre que mon travail. Donc je vous propose à présent de demander à notre cher ami Google qu'est-ce que c'est la productivité toxique. C'est cette phrase que je trouve importante et qui résonne beaucoup. Vous commencerez alors à vous sentir coupable de perdre entre guillemets du temps sur des activités qui vous plaisaient auparavant. Par exemple, aller se balader, lire un livre ou s'attarder à la table du dîner. La productivité toxique désigne cet état d'esprit. Elle désigne la volonté d'un individu à être toujours productif, tout domaine confondu, et pas seulement au travail. Et c'est ça, c'est clairement ça, c'est qu'on est dans une société de production et de consommation, c'est-à-dire qu'on produit le plus possible, on doit toujours essayer de faire mieux, et à la fois on consomme énormément, et on a très très peu de temps où on fait juste rien. Et à force de travailler, au bout d'un moment, bah, on craque, on n'en peut plus. Et je me suis dit que moi, j'avais pas envie de me retourner et de me dire que j'avais raté des moments précieux de ma vie pour le travail. Par exemple, j'ai pris la très très mauvaise habitude de rentrer très peu chez mes parents dans le sud, alors que j'ai maintenant la liberté de gérer mon emploi du temps comme je veux. Mais si je pars rien que 2-3 jours, j'ai peur de pas pouvoir tenir le rythme de mes vidéos, de pas pouvoir filmer comme je veux. Et je m'en empêche alors que je rate des moments précieux de vie avec ma maman, ma mamie, mon papa. Et ça, je suis certaine que dans quelques années, je vais le regretter. Et donc, on arrive toujours à la même chose. Il faut trouver l'équilibre. Cet équilibre, j'en peux plus. On en parle de partout. On le cherche partout. Personne ne le trouve. Où est-il? J'en peux plus. Dites-le nous. Plus sérieusement, c'est ça le problème. C'est que j'ai envie de me donner à fond dans tout ce que j'entreprends. Et j'ai envie à la fois de profiter de la vie et de pas me retourner dans 10 ans et de me dire que j'ai raté des moments précieux de vie parce que j'étais trop focus sur mon travail. Donc ces derniers temps, je me suis posée et j'ai réfléchi à quelques petites choses qui m'aident justement à tendre vers cet équilibre, même si, bien sûr, je ne l'ai pas encore parfaitement trouvé. Mais si jamais je le trouve, je vous appelle et je vous dis où il est. Mais j'ai quand même noté quelques petites choses qui peuvent m'aider. Des choses surtout pratiques que je vais vous partager dans un premier temps. Et ensuite des choses un peu plus profondes qui je pense sont vraiment la clé pour trouver ce putain d'équilibre. Côté pratique, je pense que la base des bases, c'est de se poser des limites. Par exemple, on nous dit souvent il faut pas travailler le week-end, il faut pas trop faire d'heures sup, etc, etc. Parfois, on n'a pas le choix. Moi, depuis que j'ai commencé à mon compte, j'arrive absolument pas à prendre des week-ends. Et au début, je me disais, bah, j'arrive pas à prendre des week-ends, tant pis, je prends pas de week-end. Et après, je me suis rappelée de ma théorie du 1 vaut mieux que 0. Ok, j'arrive pas à prendre de week-end, mais est-ce que j'arrive quand même à prendre une matinée dans le week-end? Et ça sera déjà mieux que rien. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Et petit à petit, bah, j'arrive à prendre un peu plus de temps pour moi, un petit peu plus, un petit peu plus. Et parfois, on est un peu radical dans notre façon de penser. On se dit qu'on peut pas prendre de week-end, donc tant pis. Mais non, essayons au moins de prendre une ou deux heures pour nous, ça sera déjà mieux que rien. Ensuite, je pense que les personnes qui sont accro au travail sont aussi des personnes qui sont assez perfectionnistes. Moi, c'est mon vrai problème. C'est une vraie qualité, mais c'est un vrai problème dans ma vie aussi. Et je pense qu'à force, il faut arriver à se poser la question, quand on travaille, qu'est-ce qui compte vraiment? Parce que c'est vrai que parfois, on va s'attarder sur des détails qui ne vont absolument rien changer, qui vont faire la différence pour personne sauf nous, et ça va nous faire perdre du temps précieux qu'on pourrait passer avec nos proches ou à faire des activités en dehors du travail. Donc je pense qu'il faut aussi s'entraîner à se poser la question de qu'est-ce qui compte vraiment, se la répéter tout au long de la journée, est-ce que ça vraiment, c'est ça qui va faire la différence, est-ce que je dois m'attarder sur ce point, est-ce que le principal c'est pas le fond plutôt que la forme, et etc etc. En 3, on a l'efficacité. Souvent quand je me dis que j'ai que 2 heures pour faire quelque chose, paf, comme par magie, j'arrive à le faire en 2 heures. Par contre, si je me dis que j'ai toute la journée pour le faire, je vais traîner, je vais procrastiner, et à la fin de la journée, j'aurai toujours pas fini ma tâche. Donc je pense que se donner aussi des deadlines, des créneaux, avant même les créneaux qu'on nous donne à nous, se donner des créneaux dans les créneaux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que je suis claire, mais en gros, si on vous dit que vous devez rendre un truc vendredi, dites-vous que vous devez l'avoir fini pour mercredi, et comme ça vous serez tranquille après. Et je pense qu'on sous-estime notre efficacité, surtout le matin. Je fais que le répéter, mais vraiment, travailler le matin, ça fait gagner tellement de temps dans sa journée, on est tellement plus efficace. Si vous le pouvez, essayez de vous donner des deadlines encore plus courtes, vous serez d'autant plus efficace, et ça vous évitera aussi d'être trop perfectionniste et de vous attarder sur des détails qui vont finalement vous faire perdre du temps sur d'autres tâches. Donc ça, c'était pour le côté pratique du travail, de pas perdre de temps à travailler pour rien, entre guillemets. Et maintenant, j'aimerais plus aborder un côté un peu plus profond de cette relation toxique au travail et comment la contrebalancer. Comme on l'a vu avec la définition de la productivité toxique, on fait tout par intérêt et pour que ça apporte quelque chose, que ça produise quelque chose. Même de nos jours, quand on lit, c'est des livres de développement personnel dans l'objectif de pouvoir s'améliorer en tant que personne, d'être une personne plus productive, une meilleure personne, d'avoir de meilleures relations, etc., etc. Et je pense que le but, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui nous permettrait de reprendre du plaisir à faire des choses sans aucune attente derrière de productivité, d'efficacité? Par exemple, quand on est petit, on joue énormément, on fait des jeux avec nos amis, on a des jeux de société. Et quand on devient adulte, j'ai l'impression qu'on perd cette notion de jouer, comme si c'était que réservé pour les enfants, alors que non. Jouer, c'est mettre notre cerveau en pause et se concentrer sur toute autre chose, juste prendre du plaisir. Et je dirais même que jouer, c'est productif parce que ça permet à notre cerveau de se régénérer et on sera d'autant plus efficace après dans notre travail si on prend du plaisir à côté. Par exemple, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de me mettre au tennis et je me mets des barrières parce que j'ai peur de pas avoir le temps avec mon travail, etc. Et à la fois, je me dis que faire du tennis, ça serait génial pour moi parce que ça serait un sport que je ferais sans aucune attente derrière, juste par envie de jouer, sans avoir envie de me challenger, de faire des matchs, etc., sans aucune arrière-pensée, juste par pur plaisir. Et je pense que c'est hyper important d'avoir une activité comme ça dans son quotidien qu'on fait juste par pur plaisir, sans aucune intention derrière, sans aucune attente. Parce que par exemple, quand je vais à la salle, même si ça me fait du bien, que c'est pour mon bien-être, etc., j'ai toujours l'impression que je vais à la salle pour un objectif de bien-être, pour un objectif d'être en forme, de maintenir mon corps en santé. Mais c'est pas du jeu, vous voyez. C'est pas l'activité où je vais me taper des barres, pas du tout. Enfin, j'ai jamais vu personne se taper des barres au pilates, mais voilà. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que souvent, si on est une personne qui vraiment dédie toute sa vie au travail, c'est hyper dur de se trouver une passion à côté, quelque chose dans lequel on va pouvoir s'amuser. C'est ça le plus compliqué en fait, c'est de se trouver cette passion. Et je pense que pour la trouver, bah, c'est tout simple, il faut juste sortir de sa zone de confort. Par exemple, hier, je suis allée voir un match de basket avec mon copain à Bercy, à l'Accor Hotel Arena. De base, c'était juste pour l'accompagner. Je sortais vraiment de ma zone de confort parce que j'avais jamais vu de match de basket comme ça. Et je me suis régalée. J'ai passé un trop bon moment alors que de base, tu m'aurais dit, toi Léna, tu vas voir un match de basket un mardi soir alors que t'as une tonne de travail à faire. J'aurais été en mode, bah non, flemme. Mais j'ai tellement passé un bon moment, j'ai pensé à autre chose que le travail, j'ai vraiment décompressé et ça m'a fait sortir de ma zone de confort et découvrir autre chose. De découvrir d'autres choses, c'est primordial une fois qu'on a fini nos études, qu'on n'est plus dans l'apprentissage constant. Faire de nouvelles découvertes, ça nous apporte énormément. Et donc se détacher de cette relation toxique au travail, ça passe par sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont pas forcément nous plaire, mais tant pis, au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets. Ça peut passer par exemple aussi par la lecture, essayer des livres qu'on n'a pas l'habitude de lire, que ce soit des genres policiers, fantastiques, etc. Mais la lecture, je pense que c'est un très bon moyen de se projeter dans un univers sans aucune attente derrière, de juste se laisser porter par l'histoire. Parce que par exemple, pour les livres de développement personnel, c'est hyper positif, ça nous permet de nous challenger, d'avoir des réflexions sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mais vous voyez, il y a toujours ce truc de productivité, même avec soi-même, alors qu'on a dit qu'on ne voulait pas travailler justement, qu'on voulait faire autre chose que travailler. Donc la lecture avec des histoires fictives, ça peut vraiment nous permettre de nous projeter dans un univers totalement différent, de décompresser, et surtout de faire quelque chose sans aucune attente derrière. Et je pense d'ailleurs que ça peut être la même chose pour la musique. Mon copain a commencé le piano pendant le confinement, sans aucune attente, si c'est pas du tout une pression à apprendre tel morceau, tel morceau, tel morceau, il est allé à son rythme et il en a juste pratiqué comme ça par pur plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qui l'aide beaucoup aussi dans son quotidien au travail. Dès qu'il a un moment et qu'il est en télétravail, hop, il se met à jouer au piano et ça lui fait énormément de bien. Et je pense qu'il est d'autant plus efficace à prendre 5 minutes de pause, jouer du piano et hop, revenir sur son travail, plutôt que de s'acharner au travail et prendre zéro plaisir. Commencer un instrument de musique aussi, ça peut vraiment être quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui stimule des sens qu'on n'a peut-être pas l'habitude de stimuler. Ça peut être hyper intéressant, comme la cuisine. Il y a tellement de possibilités et souvent on se met des barrières qui finalement sont inexistantes parce que, bah en fait, si par exemple mon copain a commencé à jouer du piano il y a 2 ans, en fait, si lui en est capable, tout le monde en est capable. Si moi j'ai commencé la vidéo, tout le monde peut commencer la vidéo. Voilà, il y a plein de choses où on se met des barrières, alors que cette barrière, c'est juste notre peur et rien d'autre. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on manque surtout de moments dans notre vie où on fait rien. Parce que même quand on part en vacances, on a toujours un programme de il faut visiter ci, ça, il faut faire ci, il faut pas manquer ça, il faut aller à tel spot, il faut aller à telle adresse, nanani, nanana. Du coup, je trouve que les moments où on fait vraiment genre rien, ils deviennent super rares. Ou alors peut-être quand on va chez nos grands-parents par exemple. Mais c'est pour ça que je trouve que les moments où on va chez nos grands-parents, ils sont hyper précieux. Parce que les moments où on fait rien en famille, mais c'est génial. Vraiment, c'est sous-coté. Et je suis trop contente parce que en juin, je vais retourner à parenthèse tiny house. Vous vous rappelez, j'étais allée dans une tiny house dans la forêt avec mes copines Liv, Audrey et Christiane. Et là, je vais y retourner mi-juin. Et en fait, le programme, c'est que pendant 2 jours, on va absolument rien faire. On va être en plein milieu de la forêt, dans nos petites cabanes, on n'aura pas de réseau, on n'aura rien à faire. Et on va clairement là-bas pour apprécier le fait de rien faire. J'ai l'impression qu'on a perdu ce truc où maintenant rien faire, ça nous angoisse. En tout cas, moi, ça m'angoisse. J'ai l'impression que maintenant, j'ai besoin de m'obliger à avoir des moments où je fais rien pour me détacher de cette relation toxique que j'ai à la productivité et au travail. Donc vous n'êtes pas obligé de partir dans une tiny house dans la forêt, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous voulez, c'est très bien, je vous recommande. Mais vous pouvez très bien partir chez vos grands-parents, vous pouvez très bien juste vous dire que tel week-end, vous allez juste vous balader dans des parcs, lire et ne rien faire d'autre. Et ça sera pas du tout un week-end gâché, ça sera un week-end où vous aurez pris du temps pour vous, pour ne rien faire. C'est totalement ok et nécessaire. Enfin, je voulais terminer cet épisode en disant qu'il y a aussi des personnes qui peuvent nous aider à trouver cet équilibre. Parce que je sais que dans mon caractère et dans ma façon d'être, je suis vraiment très ambitieuse et travailleuse. J'ai zéro problème, comme je vous l'ai dit, à travailler pendant 10-12 heures d'affilée. J'ai fait prépa et je pense que ça m'a un peu contaminée. Pour moi, c'est pas un problème de travailler énormément et c'est là que ça en devient un problème, comme on l'a vu dans cet épisode. Et mon copain, par exemple, il me permet d'avoir cet équilibre où justement il va me permettre de me poser parce que si en fait il n'était pas là avec moi, je pense que je passerais mes soirées à travailler, que j'aurais beaucoup moins de temps de pause. Alors que là, vraiment, mon copain, il m'oblige à prendre des temps de pause, des temps où on va pouvoir regarder des reportages, des séries, se balader, à juste prendre du temps pour nous. Il a vraiment une relation beaucoup plus équilibrée au travail avec sa vie perso. Il m'aide énormément à avoir cet équilibre. Donc bien sûr, peut-être que là, en réfléchissant, vous dites qu'il y a plein de personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider à retrouver cet équilibre. Et je m'étais dit que j'allais finir cet épisode comme ça, mais honnêtement, même si je suis bien contente d'avoir mon copain dans ma vie parce que déjà je l'aime, mais aussi parce qu'il m'aide à avoir cet équilibre dans ma vie, mais je pense, et j'en suis sûre, qu'il faut pas non plus vivre sa vie en espérant compter sur les autres. À un moment donné, on approche des 25 ans et il faut arrêter, Léna, de compter sur les autres, de compter sur son copain. Il faut commencer à pouvoir compter sur soi-même et apprendre à devenir sa propre meilleure amie, à apprendre à se poser des limites, comme je l'ai dit en début de l'épisode, et à se responsabiliser envers son bien-être. Et je pense que c'est la conclusion parfaite pour terminer cet épisode. Bien sûr, plein de personnes dans notre entourage peuvent nous aider à avoir cet équilibre, mais il faut aussi qu'on arrête de compter sur les autres et qu'on commence à essayer de compter d'abord sur soi-même, à se respecter et à devenir notre propre meilleure amie. Voyez Valou pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, surtout qu'il vous a inspiré et qu'il vous a permis de vous poser les bonnes questions, peut-être aussi de déculpabiliser par rapport à votre relation au travail, parce que on va pas se mentir, on est tous dans un truc de surproductivité, que ce soit dans notre travail ou personnellement. Et j'espère que cet épisode vous aura donné quelques pistes pour vous améliorer par rapport à ça. Si vous avez envie de compléter l'épisode, je vous donne rendez-vous tout de suite sur Instagram. Je mettrai une boîte à questions en story pour savoir ce qui vous permet justement de vous détacher de cette relation toxique avec la productivité et de vraiment prendre du temps pour vous. Puis je vous fais plein de bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Ça fait beaucoup d'épisodes là, dans une même phrase. Bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à dimanche prochain. Bon dimanche, pépouze. Bye!